Je vous ai rappelé hier comment la philosophie progressivement tend vers ce problème de la philosophie première, c'est-à-dire la philosophie de l'esprit, de l'intelligence en contact avec la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. Alors, je n'insiste pas, parce que il ne faut pas tarder trop dans les introductions. Je vais tout de suite avec vous reprendre, si vous voulez, ce problème de la philosophie première pour situer ce que nous allons voir ce semestre-ci. D'une certaine manière, la philosophie première, elle est première dans le sens où elle peut se poser immédiatement. Et elle est première dans le sens où elle est ultime. Vous savez, selon ce que dit Aristote, le premier peut être premier dans l'ordre génétique et premier dans l'ordre de nature. Je crois que c'est toujours très important de respecter ces deux ordres. Le premier dans l'ordre génétique, c'est le point de vue du conditionnement. Le premier dans l'ordre de nature, c'est le premier dans l'ordre de la finalité. Alors, il faut perpétuellement regarder les deux. Alors, est-ce que la philosophie première est première dans l'ordre génétique ? C'est un problème important. Est-elle première dans l'ordre final ? Dans l'ordre génétique, vous comprenez que ce qui est premier dans l'ordre génétique, c'est avant tout ce qui est premier par rapport à notre conditionnement humain de connaître, c'est-à-dire une intelligence liée au sens. Qu'est-ce que nous expérimentons en premier lieu ? Nous expérimentons en premier lieu des réalités qui sont en mouvement. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier. C'est ce que nous expérimentons en premier lieu. En premier lieu, d'une certaine manière, je vous l'ai dit, la grande expérience du travail est pour nous l'expérience la plus immédiate. Celle dont on a le plus conscience. C'est très possible qu'il y ait une autre expérience plus fondamentale qui est celle de l'amour, de l'enfant vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ses parents. Mais je crois que c'est lorsque l'enfant commence à jouer, c'est-à-dire à travailler, c'est quand l'enfant commence à jouer que de fait il a sa première expérience d'une certaine autonomie. Piaget dit cela. Parce que pour Piaget, c'est quand l'enfant a 14 ans qu'il a l'expérience d'une certaine autonomie et il dit que c'est à ce moment-là qu'on a l'âge de raison. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a donc une certaine conscience, une certaine autonomie. C'est vrai, je crois, que c'est dans le jeu, dans la compétition du jeu, parce que le vieux vient très vite, une compétition chez les gosses, hein. On voit très bien. Lequel arrivera le premier, lequel va vaincre l'autre. Donc c'est à l'intérieur d'une communauté une certaine compétition et qui donne une conscience de ce qu'on est relativement à l'autre. Alors c'est très possible qu'au niveau génétique, la première expérience la plus consciente, c'est pas premier dans le sens absolu, mais la plus consciente, ce soit le jeu. Alors, le jeu et le travail, ça se tient. Je vous l'ai déjà dit, ce serait intéressant à voir, du reste, voir la différence entre le jeu et le travail. C'est la même activité du facere. Le jeu détend, parce que c'est un facere. Alors, vous pouvez vous exprimer. Que le phénomène d'inhibition est très fatigant. Il n'y a rien qui fatigue plus un être que d'être inhibé. Et c'est ordinairement ça qui le pèse le plus. Tandis que dès qu'il peut s'exprimer, dès qu'il peut se dire immédiatement, c'est quelque chose qui le détend. Tandis que le phénomène d'inhibition est toujours très fatigant parce que ça accumule, hein, au point de vue imaginatif, une affectivité qui n'arrive pas à se transmettre. Et c'est pour ça que l'amour, quand il ne peut pas arriver à s'exprimer, l'amour fondamental, même l'amour de l'enfant pour sa mère, peut très bien conduire à quelque chose de tragique, et donc une tension. Et l'équilibre sera justement entre l'amour et le point de vue du jeu qui permettra une certaine manière de s'exprimer, une certaine manière de se dire. Donc on peut dire que l'expérience la plus consciente pour nous, c'est vraiment l'expérience du jeu et du travail. Vous voyez, quand je mets le travail, on pourrait mettre le jeu, mais j'aime mieux mettre le travail, c'est plus sérieux. Vous comprenez, que dire la première expérience de l'homme, c'est le jeu, et la dernière expérience de l'homme, c'est donc le jeu. On pourrait le dire d'une certaine manière, n'est-ce pas, pour ceux qui sont dans la dernière période de leur vie. Le jeu reprend une très grande place, puisque de fait, ils sont à la retraite, alors ils n'ont plus qu'à jouer. Et alors, c'est ça qui devrait être comme la dernière activité. Il est dit que la sagesse joue. Donc elle travaille et elle joue, la sagesse. Et que dans la création, c'est un travail et un jeu. Alors évidemment, si je voyais uniquement l'analogie du jeu dans la création, je dirais, oh, c'est pas étonnant. C'est une petite boule qui soit renvoyée à droite et à gauche, je sais pas, n'importe comment, Dieu joue en créant. C'est une manière de voir le mystère de la création. Il faut tout de suite ajouter le point de vue du travail. Les deux, ça se tient, c'est complémentaire, jeu et travail. C'est complémentaire, ce sont des aspects différents, mais c'est le facere. Donc c'est l'activité qui se manifeste à travers notre corps. Je ne crois pas que les anges jouent. C'est pour ça que c'est toujours si sérieux. Les anges ne jouent pas, ils peuvent sourire. Mais ils ne jouent pas, comme ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de facere. Le facere est lié au corps, est lié à notre monde, lié à l'univers. Et alors, étant lié à l'univers, nous le transformons. Et en transformant l'univers, il peut y avoir une certaine possibilité d'un certain jeu. Alors, voir la différence entre le travail et le jeu, c'est très important et très intéressant, surtout au point de vue psychologique. Parce qu'au niveau métaphysique, vous voyez, au niveau profond, on pourrait dire la différence, c'est que le jeu n'implique pas nécessairement d'œuvre, tandis que le travail implique une œuvre. Et alors, à ce point de vue-là, le jeu serait le moment où l'agir et le faire ne sont pas encore complètement distingués. Ça, je crois que ça pourrait être dit cela. Vous voyez, vous auriez ces trois moments, génétiquement, nous essayons de voir l'aspect génétique, parce qu'on me repose souvent la question, pourquoi mettez-vous le travail comme première expérience? Alors, j'essaie de l'expliquer, et c'est intéressant pour essayer de comprendre, au point de vue génétique, qu'est-ce que nous devons essayer de comprendre. Je crois qu'on peut dire, au plan génétique, que il y a un premier moment très souterrain qui est l'amour personnel de l'enfant pour sa mère ou pour son père. Je ne fais pas d'exclusivité. Mais c'est peut-être l'amour souterrain pour l'enfant qui est premier. Puis vous avez ensuite l'activité du jeu. Le jeu, les jeux, parce qu'au fond ils sont tout de suite multiples, va impliquer quelque chose de très important. Puis le travail. Il faut quitter le jeu pour aller à l'école. Mais le premier moment de l'école, c'est du jeu et du travail. C'est très curieux. Retournez à l'école maternelle, et vous verrez que c'est du jeu. Et en même temps, c'est du travail. On ne sait pas très bien. C'est un petit cocktail des deux. Alors, je crois que le jeu, vous voyez, va être le moment où l'aspect de l'agir, l'agere et le facere sont au fond très liés. Pourquoi? Parce qu'il y a une immanence dans le jeu. Dans les jeux, il y a une certaine immanence. Il n'y a pas nécessairement l'œuvre. C'est en ce sens-là qu'on pourra dire « je joue pour me détendre ». Se détendre, est-ce que c'est du facere ou de l'agere? La détente, se détendre. Je crois que la détente, c'est du côté de l'agir. C'est du côté de l'agir. C'est prendre la possibilité d'être plus soi-même. Donc c'est beaucoup plus une des conditions fondamentales pour que le velle, le voie, puisse s'épanouir. Si je suis trop tendu, mon velle ne peut pas se poser vraiment comme se mouvoir. Le velle, c'est le premier moment où je suis quelqu'un qui prend ma décision. Alors, j'ai besoin de cette certaine détente. Et le jeu apporte la détente, condition sine qua non. Vous voyez, fondement de l'adgérer. Et fondement de l'adgérer pour la détente et permettre que l'activité morale puisse se réaliser. Et à partir du jeu, je vais glisser vers le travail. C'est curieux, ça. Donc, le jeu, ce pourrait être le moment intermédiaire où l'agir et le facere sont liés. C'est du reste, je crois, assez significatif, c'est qu'ordinairement le jeu implique la communauté. Or, à l'intérieur de la communauté, il y a toujours agir et faire. Avant de prendre les décisions profondes, voyez, avant de prendre ces décisions profondes, il y a ce fait dans la communauté, l'agir et le faire, qui sont liés et qui réalisent justement ce que représente le jeu. Les jeux multiples, divers. Parce que la finalité du jeu, vous n'avez qu'à regarder, la finalité du jeu, de fait, reste immanente. Il n'y a pas une œuvre qu'on doit réaliser. Sauf alors quand il arrive la compétition, où il faut réaliser une chose. Ça, c'est tout à fait différent. C'est le facheret. Ça devient très sérieux. Vous voyez, le jeu implique une détente. Ça, je crois que c'est très important à le saisir. Donc, revenons. Hein. Ça, c'est pour montrer ce point de départ. Et je dis que le jeu est donc, d'une certaine manière, la première expérience où j'ai conscience de mon autonomie. Tandis qu'ici, je n'ai pas cette conscience de mon autonomie. C'est très symbolique. Je crois que ce premier amour reste très symbolique. Il est ce que les psychologues appellent, vous savez, à propos du mythe, la participation. On est lié à ses parents, on ne sait pas très très bien où est l'autonomie. C'est du reste pour ça que ça peut expliquer des tas de drames. Parce qu'on n'a pas l'autonomie. L'expérience implique une certaine autonomie. C'est mon expérience. C'est donc quelque chose qui me permet de me situer dans toute expérience, c'est ça. Tandis que dans ce premier amour, très fondamental, je ne me situe pas. Je me perds. Je me perds. J'ai confiance en quelqu'un. Je me repose dans cette confiance. J'aime. Je suis dans l'ordre de la participation. Tout mythe repose sur la participation. Et au fond, toute connaissance symbolique à ce niveau-là repose sur une certaine participation. Je suis lié, la partie dans le tout. La mère est le tout, et l'enfant est la partie, mais c'est très très lié. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas conscience de l'autonomie. Tandis que dans le jeu, il y a la première conscience de l'autonomie. Je crois que c'est ce que Piaget veut faire souligner quand il dit que c'est à l'égard du jeu qu'on découvre ce que représente le premier moment, donc où l'enfant à l'âge de raison, c'est-à-dire où il sait qu'il pose quelque chose dont il est responsable. Et c'est très vrai de voir des gosses jouer, de voir la manière dont ils sont responsables. Ils prennent ça très au sérieux. Très, très au sérieux. Si vous commencez à blaguer, ça ne va plus du tout. Ils ont le sens de leur autonomie. Et alors, le sens de l'autonomie, je l'ai ensuite dans le travail. On passe de l'enfant à celui qui va avoir un sens d'autonomie. Et c'est pour ça que je crois qu'au sens profond, c'est vraiment la première expérience que j'ai, pleinement consciente, du jeu au travail, à l'intérieur de cet amour qui est fondamental, qui est premier, mais qui n'est pas encore une expérience, au sens fort. Il est vécu. Il est vécu dans un sens très radical et très profond. Alors, est-ce que la métaphysique va se poser tout de suite dès la première expérience du travail, dès la première expérience du jeu? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire que philosophiquement, le point de vue métaphysique se pose comme premier, génétiquement. Je ne crois pas. Le point de vue métaphysique va se poser beaucoup plus au terme, mais pas au premier. Ce n'est pas quelque chose qui est premier dans l'ordre génétique. Et on comprend très bien, alors c'est là où, historiquement, c'est sûr que la métaphysique ne s'est pas posée premièrement. Il a mis du temps avant que la métaphysique puisse se poser. Vous voyez, Parménide n'est pas quelque chose de premier comme phénomène de la philosophie grecque. Qu'est-ce qui s'est posé en premier lieu? C'est la question du fondement. C'est la question de l'expérience du mouvement. C'est beaucoup plus ça. C'est Héraclite, si vous voulez, qui représente d'une certaine manière cette expérience première, avec un désir de remonter vers quelque chose de fondamental et de premier. Mais ce n'est pas encore, je ne crois pas, on peut dire que le problème métaphysique se pose en premier lieu. Il ne se pose pas en premier lieu génétiquement. C'est important, ça, parce que ça fait comprendre que pour nous-mêmes, nous devons un peu respecter cet ordre génétique. Même si dès la première année de philosophie, nous faisons de la métaphysique, faisons attention. Ne nous mettons pas trop vite au plan métaphysique. Faisons de l'éthique, faisons de la philosophie, de l'activité artistique. Parce que là, nous avons une expérience plus immédiate. Tandis que le point de vue métaphysique va naître progressivement. Donc, c'est ce que je peux dire immédiatement. Deuxièmement, je peux faire appel à autre chose. Alors ici, je regarde plus uniquement le problème philosophique, qui regarde le premier. Je regarde le problème du chrétien. Alors, je crois que pour un chrétien, le problème métaphysique, pour un croyant, disons, parce que c'est pour un chrétien, et c'est vrai pour aussi un musulman, et c'est vrai aussi pour quelqu'un qui est à la fois judaïque. Donc, pour un croyant, qui croit dans le problème de Dieu créateur et qui veut se mettre à réfléchir. La foi ne supprime pas la réflexion autant que possible. Il vaut mieux. Évidemment, on peut dire « je crois, donc je n'ai plus besoin de réfléchir. Je n'ai plus besoin que de faire des mathématiques et de la science. » On sait très bien à quoi ça aboutit. Ça aboutit au bout d'un certain temps à faire deux vérités. La vérité de la science et la vérité de la foi. C'est la philosophie qui va permettre de mettre le lien entre les deux. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que la philosophie réfléchit sur l'homme, le croyant, c'est tout de suite l'homme qui est engagé, tandis que la science, ce n'est que la connaissance de l'homme. C'est autre chose. Et donc, c'est toujours le problème philosophique qui va faire le lien entre l'exigence de la foi du croyant, et le point de vue proprement scientifique. Pour un croyant qui adhère au mystère de Dieu et du Dieu créateur, il se pose tout de suite le problème, si ce croyant réfléchit, est-ce que mon intelligence humaine peut remonter jusqu'à l'existence de ce Dieu qui s'est révélé à moi. Est-ce que mon intelligence humaine peut remonter jusqu'au Créateur? Vous voyez, en tant que croyant, c'est ça qui est très curieux du reste, le problème métaphysique se pose tout de suite. Alors, je peux dire que dès que le croyant réfléchit, je vous ai déjà dit, cette réflexion d'un gosse, c'était très curieux. Je sais bien que les réflexions des gosses peuvent être quelquefois des réflexions très métaphysiques. C'était sa mère qui m'a dit ça. Il avait 4 ans. Et quand il se posait la question, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Ça, c'est un problème métaphysique. À 4 ans, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Alors, comme il se posait la question au moment où la mère lui servait la soupe, sa mère lui a dit en riant, « Mais prends ta soupe avant, parce qu'elle sera froide avant que tu le découvriras, n'est-ce pas ?» C'est évident, il faut du temps avant de découvrir ce que c'est que l'éternité. Et la mère voulait qu'il prenne sa soupe quand elle était chaude. Puis sa mère s'en va, puisqu'il était arrêté vers cette idée. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Cette interrogation l'arrêtait. Sa mère s'en va, elle n'avait que ça à faire. le laisser devant sa question et la soupe devant lui. N'est-ce pas ? Vous voyez, le premier dans l'ordre de nature et le premier dans l'ordre du concupiscible. N'est-ce pas ? Vous avez là vraiment les deux premiers. Alors, au bout de quelques minutes, la mère revient et elle voit le gosse prendre sa soupe. Alors, ça a été plus fort qu'elle. Elle aurait mieux fait de ne pas le faire, mais ça ne fait rien, elle l'a fait. Elle lui dit, alors tu as trouvé ? Parce que si le gosse n'avait pas trouvé, c'était très mauvais. Heureusement que le gosse avait trouvé. Alors, tu as trouvé ? Alors, le gosse dit oui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors, le gosse a pris son rond de serviette, et dit, l'éternité, c'est ça, maman. C'est très joli. Vous voyez, connaissance symbolique de l'éternité. Le cercle. Le point de départ et le terme se rejoignent. C'est une redécouverte que de fait, l'humanité a porté l'éternité et représentée toujours par le point de vue du cercle. Le mouvement circulaire d'Aristote. Aristote avait 4 ans quand il a découvert le mouvement circulaire des arts. Vous voyez ? Et alors à ce moment-là, il a cette intuition profonde de l'éternité, qu'il y avait quelque chose dans l'univers qui devait être éternel. Et ce quelque chose dans l'univers qui devait être éternel, c'était le mouvement circulaire qui n'avait pas de point de départ, qui n'avait pas de terme. C'est très vrai que, de fait, la foi, c'était dans un milieu chrétien, la foi mûrit l'intelligence et peut faire que très vite on se pose des problèmes métaphysiques. Mais alors on arrête ordinairement ces problèmes métaphysiques, n'est-ce pas ? Parce que la mère n'est pas capable de répondre à l'enfant qui se pose des problèmes métaphysiques, alors elle dit, il vaut mieux pas s'en poser. Vous voyez, alors on étouffe. Alors ça fait, à ce moment-là, on sait très bien, des attitudes qui font que c'est beaucoup plus difficile après de retrouver le point de vue métaphysique. Parce qu'il faut dépasser tous ces refoulements métaphysiques qu'on a opérés parce qu'il valait mieux pas penser à ça et qu'il valait mieux faire des mathématiques, qu'il fallait mieux apprendre à lire, qu'il valait mieux telle ou telle chose. Vous voyez, on voit très bien tous ces refoulements qui peuvent se faire au niveau proprement mathématique, au niveau proprement métaphysique. Bon, de sorte que pour le croyant, on peut dire que le problème métaphysique peut se poser très vite. Vous voyez ? Ça, je crois. Pour le croyant, il peut se poser très vite. Et il peut se poser comme un problème foncier de la vie de l'intelligence. Mais normalement, parce que le problème peut se poser sans solution. On peut rester devant une interrogation. Est-ce que mon intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu ? L'existence de ce Dieu qui m'est donné dans la foi. Je ne donne pas de solution tout de suite. À ce moment-là, je risquerais de dire, oui, mon cœur a un appel vers le bonheur, vers l'infini, et donc il doit exister quelque chose. Ça reste encore de l'attente. De sorte que normalement, je dis normalement, et Aristote est là pour nous le dire, on devient métaphysicien à 45 ans. N'est-ce pas ? Alors ça ne veut pas dire que le cours de métaphysique n'est ouvert qu'à ceux de 45 ans. N'est-ce pas ? Le cours de métaphysique est ouvert à tous, mais n'oubliez pas qu'il faut faire de la métaphysique jusque 45 ans pour vraiment entrer dans le problème métaphysique. Et croyez bien qu'avant, on fait des ébauches. On avance progressivement, mais à tâtons. Et si vous continuez à 45 ans, vous pourrez avoir un éveil métaphysique. Parce que c'est à 45, plus qu'un éveil, là. L'analyse métaphysique, hein, vraiment, la découverte. Donc, normalement, le problème métaphysique est ultime. Philosophie première. Première dans le sens de la nature et dans le sens de la perfection. Alors, comment se pose le problème métaphysique ? Je vous l'ai déjà dit, je le reprends rapidement. Le problème métaphysique se pose en découvrant que toutes nos expériences ont quelque chose de commun. C'est le quelque chose de commun de toutes nos expériences qui nous oblige d'aller au-delà de l'expérience. Au fond, de ce point de vue-là, la métaphysique est bien un au-delà de l'expérience. C'est quelque chose de fondamental. Vous voyez, c'est ce qui fait comprendre comment Heidegger dit « ontologie fondamentale ». Je n'aime pas l'expression, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a quelque chose de juste. Ou, si vous voulez, Merleau-Ponty qui disait la recherche de l'être sauvage, au-delà de tous les conditionnements, au-delà de tout ce que je touche directement, je cherche l'être sauvage. Je cherche quelque chose de tout à fait fondamental. Eh bien, toutes nos expériences, l'expérience du travail, de l'amour d'amitié, de la coopération, l'expérience de la matière, l'expérience de ce qui se meut, toutes nos expériences impliquent quelque chose de commun. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun à travers toutes les expériences? En prenant expérience au sens fort, c'est-à-dire l'alliance de l'intelligence et de nos sensations, quand nous touchons les réalités qui sont autour de nous, quand nous touchons que l'espace ambiant est froid ou chaud, et l'expérience du froid, comme l'expérience de la chaleur, ce sont des expériences du milieu dans lequel nous sommes. Bon, toutes ces expériences impliquent quelque chose de commun. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun qui est au-delà de la diversité de toutes nos expériences? Ce quelque chose de commun, c'est le jugement d'existence. Ça, je dis vite, mais je crois que vous pouvez le découvrir assez vite, vous commencez à être habitué à réfléchir sur le jugement d'existence. C'est bien, soyez habitué, hein. Et essayez de découvrir à travers toutes les expériences que vous avez, il y a un jugement d'existence. Et c'est même cela qui permet de caractériser l'expérience au sens fort. Une expérience dans laquelle il n'y a pas en acte le jugement d'existence n'est pas une expérience au sens fort. Vous voyez, ça devient la condition sine qua non de toute expérience et de toute expérience au sens fort. Alors, je peux très très bien, rien ne m'empêche, au contraire, le philosophe doit aller jusqu'au bout, rien ne m'empêche d'essayer de découvrir ce qu'il y a de fondamental dans toutes mes expériences et de le mettre pleinement en lumière. Ce jugement d'existence, je vais le regarder pour lui-même. Et je crois que c'est à partir de cette attention particulière, mettre en pleine lumière le jugement d'existence. C'est à partir de là qu'il y a un nouveau point de départ au plan philosophique. Un nouveau point de départ fondamental qui présuppose toutes les autres analyses, mais qui va plus loin que toutes les autres analyses, puisque toutes les autres analyses philosophiques présuppose le jugement d'existence. Je m'aperçois là tout de suite de la très grande différence avec le domaine mathématique et le domaine philosophique. Le domaine mathématique n'implique pas le jugement d'existence. Il est mis entre parenthèses. Un mathématicien comme mathématicien ne s'oppose pas au jugement d'existence. Je ne dis pas qu'il est bien heureux parce qu'il ne s'oppose pas au jugement d'existence. Je ne dis pas non plus qu'il est malheureux parce qu'il ne s'oppose pas au jugement d'existence. Le domaine mathématique ne le demande pas. C'est très important de comprendre cela. Parce que quand on veut comprendre les liens entre la philosophie et la science, il faut revenir là. Si vous ne revenez pas là, vous pourrez chercher indéfiniment et vous ne trouverez pas. Il faut revenir à ce point de départ. La philosophie commence par une expérience qui implique toujours en acte le jugement d'existence. Et la métaphysique qui donne la signification profonde à toute la philosophie, puisqu'elle est ultime, une philosophie qui enlève la tête, c'est-à-dire qui enlève la philosophie première, est une philosophie errante. Toute philosophie qui rejette la métaphysique est une philosophie errante. Elle ne sait plus très bien ce qu'elle fait. Et donc, tôt ou tard, elle va s'appuyer aux sciences. C'est très curieux, ça. Et c'est très important de saisir ça. Vous voyez, c'est là où on voit l'erreur fondamentale de Descartes. Et comment, de fait, on doit reprendre le problème avant Descartes. Et redécouvrir le moment précis où on voit l'orientation philosophique qui implique en acte le jugement d'existence et les mathématiques qui n'impliquent pas le jugement d'existence. Puisque Descartes veut fonder les mathématiques par sa philosophie et par sa métaphysique. En réalité, il veut fonder sa philosophie sur les mathématiques. En réalité, c'est ça. Il cherche le fondement de ses méditations philosophiques sur les mathématiques. parce qu'il a perdu le réalisme du jugement d'existence. Le jugement d'existence chez Descartes est devenu quelque chose de second et non pas quelque chose de premier. Descartes le dit explicitement. Il dit, pour Aristote, le to oti est premier et le ti esti est second. Pour moi, le ti esti est premier et le to oti est second. N'oubliez jamais ça, parce que c'est là où on voit toute la différence entre Descartes et Aristote. Et comme c'est dit explicitement, je ne peux pas dire que c'est une interprétation. Je peux dire que Descartes a été parfaitement conscient de donner, à partir de ce moment-là, une orientation toute nouvelle à la philosophie. Et c'est à partir de là que les idéologies ont commencé. Alors, pour Aristote, le to oti est premier. Alors, traduisez to oti, hein, le fait d'exister. Le fait d'être, le fait d'exister. Donc, Aristote ne distingue pas encore ce que nous, nous devons distinguer. Je deviendrai après. Et puis, le ti esti. Pour Aristote, il faut d'abord constater l'existence d'une chose pour se demander ce qu'est cette chose. Pour Descartes, au contraire, le ti esti est premier et le to oti est second. Le ti esti cogito ergo sum. Voyez bien. Donc le ti esti cogito, c'est le meilleur des ti esti cogito. C'est le meilleur, parce que celui-là, il est immanent. Je suis intelligent, je pense. Donc le ti esti vous renvoie à votre cogito, ergo sum. Vous voyez ? Donc le to oti, je suis. Et c'est le meilleur des to oti. Je suis. J'existe. Alors c'est juste l'inverse de ce qu'Aristote dit, il faut partir de l'expérience pour saisir le tiesti. Bon. Alors là nous trouvons, hein, c'est important parce que nous trouvons à l'intérieur même de la philosophie occidentale le tournant. Je n'invente rien puisque c'est dit explicitement. Comprenons que si je redécouvre le primat du to-oti. Je dois comprendre que dans l'expérience, il y a quelque chose de fondamental, donc c'est toujours voir qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est fondamental. Ce n'est pas l'expérience du fait d'exister, c'est à l'intérieur du fait d'exister le jugement d'existence. Alors là, c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais c'est très important. Parce que quand vous expérimentez quelque chose, vous restez en face du fait d'exister. Telle réalité existe. Donc, il y a. Il y a ceci, le datum. Ceci est donné. C'est le fait qui est donné. Donné, brutal, l'être sauvage, il est donné. Avant toute espèce d'analyse. Je suis obligé aujourd'hui. Et puis même du temps d'Aristote, on était obligé de le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais au fond, on devrait le faire, et on doit le faire. On doit comprendre qu'au-delà du donné, il y a datum. Il faut découvrir ce qu'il y a de premier dans le datum, que mon intelligence est capable de saisir, le jugement d'existence, ceci est. Vous comprenez que le ceci est toujours donné dans tel ou tel fait d'exister. Le jugement d'existence est toujours donné dans telle ou telle expérience. Vous n'avez pas une expérience pure du jugement d'existence. Absolument pas. Vous n'avez pas d'expérience pure. C'est ça la difficulté, vous comprenez ? Si j'avais une expérience pure du jugement d'existence, tout le monde accepterait la métaphysique. Tout le monde accepterait la philosophie première. Mais comme je n'ai pas une expérience pure du jugement d'existence, on peut très bien s'arrêter à l'expérience et dire « je ne vais pas aller au-delà ». Il faut faut expliquer pourquoi la philosophie première si facilement est oubliée. Il faut expliquer pourquoi si facilement on la rejette. Parce que justement, le point de départ de la philosophie première est toujours à l'intérieur d'un autre point de départ. C'est donc un point de départ fondamental qu'il faut découvrir et que mon intelligence est capable de découvrir. Quand l'intelligence voit la différence qui existe entre l'expérience, j'expérimente que cette table existe, elle est là devant moi. J'expérimente que vous êtes là en face de moi. J'expérimente que le petit chat est là. Il est là, le petit chat. Toujours. Il est caché parce qu'il ne veut pas se montrer, mais il est là. Donc, j'expérimente cela. J'expérimente des quantités de réalité. Est-ce que, en voyant le chat, vous dites la métaphysique existe? Non. Vous dites le chat existe. C'est tout. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de dire autre chose. Pourquoi voir la différence entre l'expérience et le jugement d'existence? Pourquoi est-on-nous obligé de dépasser l'expérience et de voir qu'il y a à l'intérieur, au cœur même de toute expérience, un jugement d'existence? Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est capital de comprendre la différence qui existe entre les deux. Vous ne pouvez pas justifier l'existence de la philosophie première si vous ne voyez pas la différence entre les deux. Parce que toutes les autres parties de la philosophie étudient telle ou telle expérience, le travail. Le travail ne s'étudie pas au niveau métaphysique. La preuve, c'est que la métaphysique a continué d'exister et on n'a pas fait de philosophie du travail. L'amour d'amitié, c'est autre chose. Alors, pourquoi, je reviens à la question, pourquoi l'intelligence humaine est-elle obligée, au-delà de l'expérience, de mettre en pleine lumière le jugement d'existence? Ceci est. C'est pour mieux comprendre que l'autre que j'expérimente a quelque chose d'irréductible en lui-même et dans ce qu'il a de plus lui-même. Il existe comme moi-même. Mon intelligence doit aller jusque-là si elle veut connaître vraiment l'autre. C'est la connaissance de l'autre expérimentée par le travail. Par le travail, j'expérimente la matière. Par l'amour d'amitié, j'expérimente une personne qui m'aime. Dans la coopération, j'expérimente un autre qui travaille avec moi, et ainsi de suite. Je peux aller jusqu'au bout de cette expérience de l'autre et essayer de comprendre ce que l'autre a d'irréductible. Il existe. Il existe en lui-même, comme moi-même, j'existe. Vous voyez comment se pose ce problème? C'est une exigence de l'intelligence, et je dis bien une exigence de l'intelligence, d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour saisir l'autre en tant qu'il existe. Vous voyez, c'est pour ça que la métaphysique se pose tout de suite, métaphysique du même, métaphysique de l'autre. C'est très curieux, alors que vous ne dites pas philosophie du travail du même et de l'autre. Ça n'aurait aucun sens. C'est très très curieux ça. Et c'est intéressant de voir ça. C'est que c'est tout de suite. Vous n'allez pas poser l'éthique du même et de l'autre. Non, ça ne s'oppose pas. C'est l'éthique du bonheur, c'est l'éthique du devoir. C'est... Tout à fait. C'est très important de saisir tout de suite les premières interrogations qui se posent. Alors tout de suite, métaphysique du même, métaphysique de l'autre. Philosophie première de l'autre ou du même. C'est fondamental, ça. C'est fondamental de se poser la question. Pourquoi? Parce que, de fait, le jugement d'existence me met en présence de l'autre. Et c'est cet autre que je veux saisir, dans son altérité propre, dans ce qu'il a de tout à fait autre. Et il est tout à fait autre dans son existence. En dehors de son existence, il n'est pas tout à fait autre. C'est les centalaires que je peux connaître. Je connais les centalaires. Ils sont tout à fait autres dans leur existence. Vous voyez, ce que Kant a oublié de voir. Et c'est là, on voit tout de suite qu'il a oublié l'autre. Parce que c'est vrai, je peux expérimenter cette table, et je dis la table, je la connais, mais l'existence de la table, c'est justement la table en tant qu'elle est autre que moi. Vous voyez, le problème métaphysique va se poser à ce moment-là, quand j'essaie de voir la différence qui existe entre le jugement d'existence et mes diverses expériences. Et alors, c'est là, fondamentalement, que le problème métaphysique se pose. Si vous ne voyez pas ça, vous faites de la métaphysique parce qu'on en fait. On est habitué ici de faire un problème de l'ontologie. On est habitué ici de donner des cours d'ontologie. Mais pourquoi faisons-nous de la philosophie première? Pourquoi cette exigence? Alors, vous pouvez le faire, évidemment, par mode d'obéissance, selon l'autorité, mais ce n'est pas de la métaphysique de faire ça. C'est peut-être très vertueux, parce qu'on s'ennuie 2 heures par semaine, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être très vertueux, mais ce n'est pas faire de la métaphysique. Faire de la métaphysique, c'est de comprendre l'enjeu de l'esprit. C'est de comprendre que mon intelligence ne peut s'éveiller pleinement et totalement quand elle est en face de l'autre. Tant que mon intelligence est en face de moi, elle ne s'éveille pas. C'est curieux, hein? Je ne suis pas assez intelligent pour éveiller l'intelligence. C'est vrai ça. L'intelligence ne s'éveille que quand elle est en face de l'autre. C'est curieux. C'est très très curieux ça. Mais tant que l'intelligence est en face de moi, elle ne s'éveille pas. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il y a tant d'intelligences qui ne se sont jamais éveillées. Parce qu'ils sont restés toujours en face du même. Une métaphysique du même n'éveille pas l'intelligence. Et c'est pour ça qu'une métaphysique du même ne retrouvera jamais l'autre. Parce qu'on s'est enfermé dans le même. Vous voyez, une métaphysique du même, c'est une métaphysique de la vie. C'est une métaphysique de l'éthique. C'est pas une métaphysique du facere, c'est très curieux. C'est une métaphysique qui s'est enfermée dans l'immanence. Et alors on n'a pas découvert l'autre. Si l'intelligence comprend cette nécessité de découvrir l'autre, ah, alors tout de suite le problème de l'être se pose. Jugement d'existence, ceci est. Vous voyez comment la nécessité d'aller jusque-là pour découvrir cette chose importante, il se pose un nouveau problème à partir du jugement d'existence. Et dès qu'il se pose ce problème nouveau à partir du jugement d'existence, on comprend alors immédiatement l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Parce que ce jugement d'existence, si je le pose vraiment, me met en face de l'autre. Et l'autre m'intrigue. Et c'est vrai, l'autre m'intrigue dans ce qu'il a de tout à fait unique. Et je me pose à ce moment-là la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, parce qu'au fond, vous pourriez dire, oui, on s'est toujours posé le problème de l'être, mais pourquoi on se pose le problème de l'être? À cause du jugement d'existence. Et ce n'est pas pour une autre raison. C'est à cause du jugement d'existence. Donc, toutes les expériences me conduisent au jugement d'existence et toutes les expériences me conduisent à l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, à ce moment-là, ça devient extraordinairement intéressant. Je vois que c'est seulement l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, qui donne la signification dernière à toutes mes autres expériences. C'est fondamental, ça. Je ne peux vraiment comprendre mes expériences humaines que si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, ça vous fait comprendre aussi que lorsqu'on ne se pose plus la question, qu'est-ce que c'est que l'être, progressivement, je ne peux plus distinguer une véritable expérience d'un rêve. Je ne distingue plus. Ça devient grave. Ne plus distinguer une véritable expérience d'un rêve. La perte du jugement d'existence fait que le philosophe n'arrive plus à distinguer le réel du jugement d'existence. Et ça fait comprendre comment dans la philosophie analytique, vous ne pouvez plus distinguer la différence entre ceci est et ceci. Ça va très loin, vous savez. Ça fait comprendre comment dire sans Thaler existe ou sans Thaler tout court, c'est la même chose. C'est la même chose au niveau intentionnalité, mais pas au niveau existentiel. Au niveau intentionnalité, oui. Au niveau intentionnalité, un rêve peut être quelquefois beaucoup plus qu'une expérience. Il y a des gens qui sont secoués par des cauchemars. Ah, mais littéralement secoués. Et pendant toute la journée, ils ne pensent qu'à leur cauchemar. Ils ne se sont pas réveillés, que voulez-vous. Vous voyez, ils sont restés dans le prolongement de leur rêve. Et donc, ils demeurent dans l'intentionnalité. Ils n'ont pas rejoint le réel. Ils restent dans leur rêve. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur rêve toute leur vie. Ils ne se sont pas réveillés. Ils se réveilleront le jour de leur mort.